à toutes et à tous, l'émission Ensemble vous est aujourd'hui présentée par votre serviteur Christophe Jubien. Le lundi 19 mars à 20h15 au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres, vous ferez la connaissance d'une association tout à fait extraordinaire qui s'appelle PSE, pour un sourire d'enfant. Nous en avons parlé il y a quelque temps avec son correspondant local, si j'ose dire, Christian Clavier. Mais au bout du fil, j'ai aujourd'hui Marie-France Despalières qui a fondé cette association pour un sourire d'enfant, une association qui a permis à près de 10 000 enfants d'accéder à un métier et de se construire un avenir. C'est une association, Marie-France Despalières, que vous avez créée suite à un séjour au Cambodge, hein, c'est ça ?
Pas tout à fait, pas tout à fait. Nous étions, je ne l'ai pas créée toute seule, j'ai créé avec mon mari, hein, qui s'appelle aussi Christian d'ailleurs, qui s'appelait Christian, puisqu'il est décédé en septembre 2016. Donc non, nous n'étions pas. En fait, c'est lui qui était en pré-retraite et qui est parti pour une autre association qui s'appelle le CIPAR, qui travaillait à aider au redressement de l'enseignement primaire. Et actuellement, ils font surtout de l'édition et ils s'occupent de bibliothèques. Ils font de l'édition puisque au Cambodge, il n'y avait pas grand-chose à lire quand les enfants apprenaient à lire. Voilà. Donc nous avons travaillé pendant 2 ans là-bas. Et puis, pendant ces 2 ans, nous avons découvert les enfants chiffonniers dans les rues, mais on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et à la fin de notre mission de 2 ans, on a pris contact avec eux, on leur a demandé où ils travaillaient, etc. Et ils nous ont emmenés sur la décharge de Phnom Penh. Et là, ça a été le choc total. Et c'est comme ça que ça a démarré. On n'était pas en voyage. On avait déjà une première mission à Phnom Penh. Ouais.
Le choc a été tel que vous avez totalement changé de vie, je crois.
Ah bon, on s'est dit, on peut pas laisser ça. Ouais. On peut pas laisser ça. Il y avait des enfants qui mangeaient là-dedans. Ils étaient dans un état épouvantable. Enfin, je peux vous décrire la décharge, mais vous n'aurez pas les odeurs. Mais c'était absolument horrible. Et du coup, on a commencé tout de suite. Tout de suite, on a commencé à leur apporter des repas. Tous les matins, et puis on s'est dit directement sur la décharge, on n'avait rien démarré à l'époque, et puis on s'est dit très vite que on s'est aperçu très vite qu'il y avait beaucoup plus d'enfants que ce qu'on imaginait, beaucoup plus de besoins, et là on n'avait pas les moyens on n'était pas à la hauteur, si vous voulez, on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc on est reparti assez rapidement en France pour alerter nos familles et nos amis et essayer de récolter des parrainages. Et on est revenu ça c'était en 95, fin 95, on est revenu début 96 avec de quoi démarrer. Ouais. Et là, on a commencé et puis on a interrogé les enfants à ce moment-là, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. On voulait pas partir dans les trucs qui auraient été notre idée, mais qui auraient pas correspondu à leurs besoins à eux. Du coup, en fait, ils nous ont dit qu'ils nous demandaient un repas par jour et aller à l'école.
Oui, c'est toujours. Ça fait plaisir d'entendre des enfants qui veulent aller à l'école. Hein. C'est bon.
Vous savez, ils se doutaient bien que c'était la seule solution pour sortir de là où ils étaient, et ils voulaient aller à l'école comme les autres enfants.
Oui. Alors, vous faisiez quel métier auparavant ? Donc, vous êtes arrivé en France. Vous faisiez quel métier ?
Christian a fait pratiquement toute sa carrière à IBM. Ça n'avait rien à voir. C'était pas sa passion, c'était surtout alimentaire. Et puis, moi, je me suis occupée de nos 4 enfants, et puis 5, puisqu'on en a adopté un plus tard, jusqu'à ce qu'il commence des études supérieures. Et là, ça devenait un peu compliqué. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai fait du secrétariat. J'ai fait du secrétariat, en fait, tout à fait par hasard, je me suis retrouvée à l'archevêché de Paris. Voilà.
Et à partir du moment où vous avez rencontré ces enfants, vous êtes revenu en France, mais vous êtes donc presque tout de suite reparti. Ça veut dire que tous les deux, vous avez abandonné votre situation.
Christian était déjà. Christian est parti avant moi. Mais il travaillait dans l'autre association, hein, aussi par. Et en fait, après, moi, je suis arrivé 1 an plus tard. J'imaginais pas, à l'époque je travaillais encore, j'imaginais pas qu'on passerait le restant de notre vie là-bas. Et puis quand on a découvert tout ça, non d'abord, Christian m'a demandé si je ne viendrais pas le rejoindre. Alors, le premier soir, j'ai dit, mais t'es complètement fou. Ça ne m'était pas venu à l'idée de... Bien qu'on en avait déjà discuté de cette possibilité-là. Hein. Enfin bon, et le lendemain matin, je me suis réveillée en me disant, pourquoi pas. Et puis voilà. Après, je n'ai plus aucun doute. Les choses se sont faites, j'ai démissionné, etc. Bon, je suis venue le rejoindre, on a commencé, donc moi j'ai retravaillé donc avec lui dans la même association. Et puis après, à la fin du contrat, on a pris contact avec les chiffonniers et on s'est dit, on peut pas laisser ça, et donc on n'est pas reparti. Mais si, on est revenu faire, comme je suis en train de faire pour l'instant, faire une tournée pour récolter des parrainages qui correspondent à la prise en charge des enfants. Mais effectivement, on a tout laissé.
Ouais. Et quelle était l'association dans laquelle vous travailliez donc avec votre mari auparavant ? C'est elle-même une association humanitaire ?
Tout à fait. Ouais. C'est une association qui s'appelle le CIPAR. Alors c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si j'arriverai à tout vous dire. Enfin bref, ils se sont occupés pendant longtemps des Cambodgiens dans les camps de Thaïlande, à la frontière thaïlandaise. Ils se sont occupés de leur apprendre le français, la culture française, de les intégrer ici en France avec tout un réseau de familles qui les ont pris en charge. Et quand on leur a demandé s'ils voulaient repartir dans ce nouveau programme, ils nous ont dit, allez-y, mais nous, ça fait longtemps déjà qu'on travaille, etc. Ils n'avaient pas envie de repartir dans un nouveau projet. Et donc, on est démarré tout seul. Enfin, ils nous ont donné un petit coup de main au départ, mais voilà. Ouais. Comme ça que ça s'est passé.
Alors, qui sont ces chiffonniers ? On se dit, comment se fait-il que tant d'enfants se retrouvent comme ça sur des tas d'ordures à travailler ? Ce sont des enfants qui sont des orphelins ou ce sont des enfants de familles très pauvres ?
Non, pas forcément. Pas forcément des orphelins. C'est des familles, vous savez, qui n'arrivaient pas à vivre à la campagne, qui arrivaient en ville espérant trouver du travail et qui n'en trouvaient pas parce que ces familles-là, en fait, ces parents-là avaient vécu sous le régime des Khmers Rouges, n'étaient pas allés à l'école, n'avaient rien appris. Donc, trouver du travail dans ces conditions, c'est pas simple. Et en fait, ils avaient deux solutions. Ou bien ils mendiaient. Alors, il y en a qui mendiaient et puis d'autres qui travaillaient sur la décharge et les enfants avec. Et quelquefois, enfin bon, ça dépendait, parce qu'il y avait aussi beaucoup de violence suite à tout ce régime Khmer Rouge, où les parents avaient vécu des choses épouvantables. Ils étaient donc un peu démolis, devenus violents, et donc les enfants... puis vous savez, quand vous n'avez pas de travail, quand tout se passe mal, quand vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à boire, et du coup, quand vous buvez, la violence n'est pas loin. Enfin, vous voyez, c'est tout un engrenage qui fait que, voilà. Cela dit, on a commencé sur la décharge, mais actuellement, on a encore près de la moitié de familles chiffonnières, mais on a aussi beaucoup d'autres enfants qui ne sont pas forcément chiffonniers, mais qui ont des travaux difficiles, qui sont en danger, qui sont dans des familles violentes. Je veux dire, ce n'est plus uniquement la décharge actuellement.
Alors, vous avez bien fait de parler
bien qu'on en ait encore. Ouais. Pardon ?
Vous avez bien fait de parler des Khmers Rouges, parce que pour nos plus jeunes auditeurs, il faut rappeler ce qu'a été le régime de Pol Pot et des Khmers Rouges. C'est un génocide, hein, on peut parler d'un génocide, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes.
Ce qu'il y a, c'est que, je crois que c'est... Je suis un peu chiffre, mais c'est assez énorme. C'est vraiment énorme comme proportion de personnes qui ont été éliminées simplement parce que ils parlaient français ou anglais ou qu'ils avaient des lunettes, donc c'était des intellectuels, etc. Enfin, ça a été complètement fou, quoi. Et on a fait faire les parents de nos enfants qui à l'époque étaient enfants. D'abord, on les a séparés de leurs parents, on leur a appris à tirer, on leur a appris que les parents étaient complètement dévoyés, enfin qu'il fallait repartir complètement à zéro du travail de la terre, et puis tout ce qui était occidental, c'était corrompu. Enfin bon, ça a été un régime complètement fou, mais qui a décimé quand même la population. Et puis c'est pas dire. On peut se dire, il y a des gens qui nous disent, mais c'est loin les Khmer Rouges maintenant. C'est pas si loin que ça, parce que les conséquences, on les a encore. Oui. Et encore sur les enfants. Beaucoup de parents, sur les enfants. Et ça a quand même détruit beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Pas seulement des bâtiments, mais ça détruit l'esprit, ça détruit les familles, ça détruit l'esprit des gens. Et voilà, c'est pas simplement de la pauvreté, hein. Oui. Il y a beaucoup plus.
Alors, j'imagine que quand vous avez commencé votre action en faveur de ces chiffonniers de Phnom Penh, il a fallu que vous montriez peut-être patte blanche vis-à-vis des autorités. Comment ça s'est passé, les premiers contacts avec l'autorité
Bah,
cambodgienne?
vous savez, les premiers contacts, on a d'abord commencé, on n'a pas ouvert avant d'avoir signé les protocoles d'accord avec le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur et je crois aussi des Affaires étrangères. Et on a, voilà, on s'est inscrit, si vous voulez, bon, on voulait faire on s'est aperçu que les enfants étaient très déscolarisés, voire pas scolarisés du tout, quelquefois à 12, 13, 14 ans. Donc on est parti sur un système de rattrapage scolaire, c'est-à-dire de faire 2 ans en 1 an, 2 niveaux scolaires en 1 an. Mais bon, ça a été très bien admis par on n'a pas eu de problème avec les autorités. Et par contre, on s'est appliqué à respecter la culture, à respecter, enfin, à redonner, enfin, réapprendre aux enfants leur culture qu'ils connaissaient plus. Vraiment, on s'est appliqué à respecter le pays. Je pense que c'est une des choses qui ont fait qu'on n'a pas eu de problème.
Ah, vous avez dû vous-même vous familiariser avec la culture cambodgienne?
Ben oui, mais vous savez, quand on vit dedans,
Oui.
on s'en imprègne assez vite.
Le fondement de cette culture, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est la religion, par exemple, qui a dû évidemment énormément souffrir sous l'époque des Khmers rouges?
Ah ben toutes les religions, oui, toutes les religions.
Quelles ont été vos premières modalités d'action, donc, à partir du moment où, vous avez eu les autorisations pour travailler, qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Concrètement, on a construit une paillote donc à côté de la décharge pour continuer à faire les repas du matin, les premiers soins, accueillir les enfants, qu'ils puissent avoir de l'eau, qu'ils puissent se doucher, parce qu'il n'y avait pas d'eau sur la décharge. Et puis assez vite, quand on s'est aperçu qu'ils voulaient aller à l'école, on a construit, donc on a cherché un terrain pas trop loin pour qu'ils puissent venir à pied, pas trop près pour qu'on soit pas trop dans les mouches, etc., et les odeurs. Les odeurs, on les a toujours eues quand même. Les odeurs, tant que la décharge a été dans ce lieu-là, par vent du sud, on avait des odeurs qui arrivaient. Mais bon, mais enfin, pas trop de mouches, etc. Et donc, et on a commencé à construire, à trouver un terrain, et construire 2 premiers bâtiments, plus des douches, une cuisine. Une salle polyvalente, ça, c'était le démarrage. Ça s'est fait sur plusieurs mois, bien sûr.
Oui. Et ensuite, donc, ces enfants ont été scolarisés par qui? Alors, vous avez dû nouer un partenariat avec, je sais pas si s'il existe un ministère de l'Éducation nationale au Cambodge.
Il existe un ministère de l'Éducation nationale, mais on a embauché des. On a dès le départ, on a embauché quelqu'un enfin, qui était notre premier directeur. Et qui parlait français parce que évidemment c'était pas très simple de communiquer avec les familles et les enfants et à l'époque et du coup et on a embauché des professeurs cambodgiens.
Alors, je crois que je le disais en préambule, ce sont pour l'instant, en 20 ans, près de 10 000 enfants qui ont été suivis par vos soins et qui ont accédé à un
Oui,
avenir
alors
meilleur.
justement, vous disiez que 10 000 enfants qui ont un métier, c'est pas tout à fait ça. Actuellement, il y en a 4 000 qui sont sortis de nos programmes et qui ont un métier, qui travaillent, et il y en a 6 500 qui sont encore dans les programmes. Ce qui fait effectivement 10 000, mais les 10 000 n'ont pas encore un métier, parce que ceux qui sont encore à niveau 1 ou 2, ils n'ont pas encore des métiers, bien sûr. Mais donc ça fait effectivement 10 000 enfants qu'on a touchés jusque-là.
Ouais. Et c'est parmi ces 6 000 qui ont réussi à trouver un travail,
Quatre
il y
mille,
a 4 000, pardon, il y a de beaux
oui.
parcours, il y a des
Oh,
parcours.
magnifique.
Ouais.
Il y a un garçon qui vient qui m'accompagne là, qui racontera son histoire. Voilà, il est professeur maintenant dans l'école. Il a fait tout son parcours, il a scolaire, il a étudié dans l'école de médias, l'école du cinéma, et maintenant il y est professeur. Et il va raconter ça. Il vient témoigner pour tout le monde, quoi.
Vous avez dû financer évidemment des actions comme ça coûte cher. Comment vous vous êtes débrouillé pour trouver l'argent?
Alors, en fait, on a deux financements différents. La prise en charge des enfants, c'est essentiellement pris en charge, bon, je me répète, par les parrainages. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui acceptent de, voilà, qui prennent en charge, enfin, on est un petit peu en dessous du coût actuel, mais bon, on veut pas trop augmenter non plus le parrainage. On a actuellement 70% du fonctionnement, donc de la prise en charge des enfants, hein, tout compris, 70% qui sont financés par les parrainages. Par contre, tout ce qui est achat de terrain, construction, etc., ce sont des dons de particuliers, d'entreprises, de fondations, etc. Et c'est pas pris sur les parrainages. On ne construit que quand on a l'argent en main ou 90% de certitude que ça va que le don va être réalisé. Vous voyez.
Ouais. Alors, les parrainages, en quoi ça consiste? Si l'un ou l'autre de nos auditeurs souhaite parrainer un enfant, quels seront ces...
Eh bien, il y a... Les parrainages, ils sont gérés au siège à Versailles. C'est en fait verser une somme chaque mois qui permettra effectivement de prendre en charge un enfant ou une part d'enfant, si c'est moins que le calcul vient, ou plusieurs enfants. Il y a des amis qui parrainent 10 enfants, on a des amis qui parrainent autant d'enfants qu'ils ont eux-mêmes d'enfants. Enfin, je veux dire, il y a toutes les possibilités. Mais ce qui est important pour nous, en l'occurrence, c'est la régularité. C'est-à-dire savoir que voilà, les enfants pourront aller jusqu'au bout de leurs études et qu'on ne sera pas obligé d'arrêter.
Oui. Les parrains font connaissance avec les enfants?
Non, ce ne sont pas des parrainages nominatifs, parce que pour éviter, bon, c'est très très lourd à gérer. Et puis, vous savez, avec des enfants qui ne sont pas forcément toujours très stables, qui vont laisser tomber un jour, donc on est obligé de prévenir le parrain, de demander s'il veut prendre en charge un autre. Enfin, c'est une gestion énorme. Et en plus, on tenait pas non plus à avoir des enfants qui sont parrainés, qui reçoivent beaucoup de cadeaux parce qu'ils ont un parrain très généreux et d'autres qui sont un peu plus oublieux. Enfin, voilà, on est parti sur des parrainages de collectifs. Enfin, pas collectifs. Mais par contre, on est engagé vis-à-vis de la Cour des comptes qui nous contrôle, puisque maintenant on est une taille quand même... suffisamment importante pour être que la Cour des comptes mette son nez dedans. On est engagé à avoir au moins autant d'enfants que de montants de parrainage. Mmh. C'est-à-dire, le parrainage, en fait, il est fixé, on l'a actuellement, il est à 47 euros par mois. Avec déduction fiscale, ça fait 15,98 euros, 53 centimes par jour. Et avec ça, on peut sauver un enfant. Donc, je veux dire, ça peut. Et quand un enfant sort parce qu'il a un métier, eh bien, le parrainage, il va automatiquement. Enfin, je veux dire, vous voyez, comme c'est global, automatiquement, on prend un enfant pour le remplacer. Mm-hmm. Vous voyez. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment clairement.
Oui, tout à fait, si. Alors, les Chartrains ou les habitants de l'Eure-et-Loire qui viendront lundi 19 mars vous écouter à 20h15 donc au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres pourront découvrir également un film. C'est votre, je crois, votre deuxième film, parce qu'il y a un premier film que vous aviez réalisé qui est sorti en 2016 qui s'appelle Les Pépites.
Non, ce n'est pas tout à fait ça. Le film qui est sorti en 2016 qui s'appelle Les Pépites, c'est un ami qui a fait ce film sur notre histoire, en fait. Sur notre histoire globalement, beaucoup plus que sur ce qui se passe exactement à Phnom Penh. Bien sûr, on voit les enfants là-bas, on voit tout ça, mais c'est pas nous qui l'avons fait. Le film, en fait, on a démarré au début, c'était pendant les trois premières années, on passait un diaporama, et en 2000, je crois, ou 2000 ou 2001, ou 99, je sais plus très bien, Christian a commencé à faire des films, des vidéos. Et chaque année, on est revenu et on présentait un film qui était pas toujours refait complètement, qui était remis à jour, qui était échangé, etc. Mais depuis le début, on présente un film dans les tournées.
Ouais.
Et c'est ça que je vais présenter.
C'est ça que vous allez présenter. Après quoi, évidemment.
Un film que j'ai modifié par rapport à l'année dernière avec les jeunes de l'école. Les jeunes et ceux qui sont devenus professeurs, comme celui qui vient avec moi. Voilà, c'est un film différent. C'est notre film de tournée qui est différent des Pépites.
Des Pépites, ouais. Les Pépites.
Bien que l'histoire soit la même, mais ouais. Bien sûr.
On peut le voir sur Internet, peut-être, les Pépites. Sans doute.
Ah, ça, je sais pas du tout. Alors, comme c'est pas notre film, je sais pas bien. Je ne suis pas sûre. C'est un film d'une heure et demie. Je suis pas sûre que ça passe sur. Je sais pas du tout. Mais enfin, il y a des DVD qui sont sortis maintenant. Et puis il passe encore. Hein, il passe encore. J'ai pas tout dans la tête, mais il passe encore dans un certain nombre de villes actuellement. Ouais.
Donc on pourra découvrir votre propre film donc le lundi 19 mars à 20h15. Puis après, évidemment, on pourra vous poser des questions. Quand
Absolument.
Vous faites des tournées, ce sont des moments importants dans la vie de l'association. Ce sont des tournées qui sont
complètement,
efficaces.
Complètement. Ouais. C'est ça qui est la base des... C'est ça qui... Enfin, moi, c'est une tournée de parrainage que j'ai fait, en fait, hein, que nous avons fait avec Christian pendant des années, pendant 20 ans, en fait, pratiquement, ou 20 ou 19 ans, je ne sais plus. C'est une journée de parrainage, c'est vraiment pour essayer de motiver d'autres personnes pour se mettre à côté de nous et prendre en charge les enfants.
Ouais, avec beaucoup de succès, il y a combien de parrains aujourd'hui, on le sait
8, 9 000, quelque chose comme
8,
ça.
8, 9 000. Donc à travers la France, là vous serez à Chartres.
Mais les parrains, c'est pas forcément... je vous disais 40 euros tout à l'heure, mais il y a des parrains qui parrainent à 10 euros, à 30 euros, à 25 euros, etc. Enfin, bon, mais nous, notre calcul, c'est le montant de 47, et c'est avec ça que c'est à ça qu'on est engagé. C'est-à-dire que s'il y a trois parrains, ou il faut quatre parrains à 10 euros pour prendre un enfant en charge complètement, même pas, un peu plus, enfin, je veux dire, un peu plus que 4 d'ailleurs, puisque c'est 47. Vous voyez, et puis il y a des parrains qui parrainent beaucoup plus, hein, qui ont beaucoup plus que 47, qui 4 fois, 5 fois, enfin bon, je dis 10 fois aussi, on en a un certain nombre.
Voilà, enfin, en tout cas, selon ses possibilités, chacun peut contribuer à un parrainage au moins.
Contribuer à prendre en charge un enfant. Ou une part d'enfant.
Voilà, une part d'enfant.
Ou plusieurs enfants.
Tout à fait. Une dernière question.
Et c'est très important parce que le parrainage, c'est vraiment... Vous savez, bon, avec un don, on ne prendra pas un enfant de plus.
Ouais.
Parce qu'on ne sait pas s'il sera renouvelé. Ouais. Le parrainage, c'est vraiment la stabilité et l'assurance que, voilà, que les enfants pourront aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a deux... deux financements qui sont indépendants. Alors bien sûr, il y a aussi des dons non identifiés. Bon, il y a quelquefois des personnes qui font un don pour telle chose bien identifiée, mais si on est un peu juste au point de vue parrainage, on peut aussi... D'ailleurs, on alimente un fonds de parrainage qui permet qui nous permet de puiser dedans quand on est juste au niveau des parrainages.
Je vous pose une dernière question. Comment s'en sort le Cambodge aujourd'hui? Vous y êtes arrivé donc il y a 20 ans à peu près. Est-ce que le pays va mieux?
Le pays, il se développe, hein. Il se développe même très vite. Mais le problème, en fait, c'est que ces enfants et ces familles qui n'ont eu aucune éducation, eux, ils restent un peu sur le bord de la route. Hein.
Ah.
C'est ça le problème.
Oui.
Mais le pays se développe considérablement. Ça, c'est... Vous savez, moi, quand je vais revenir dans 3 mois, il y a des coins que je ne vais même pas reconnaître, tellement ça a bougé, évolué, que tellement il y a eu de construction entre-temps, etc. Mais on a vécu ça depuis qu'on est là.
Uh-huh.
Depuis, moi, ça doit faire 23 ans que je suis arrivé là-bas. Il évolue très vite. On a, je crois, une croissance de... Je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que les chiffres, c'est pas mon truc, mais je me demande si c'est pas aux alentours de 7% par an.
Oui. Ça n'est pas la croissance française, non. Mais
non. Ouais, mais... Oui, mais on ne part pas du même endroit. Hein.
Oui, bien sûr. Puis la société reste inégalitaire, quoi, finalement, malgré cette croissance.
C'est-à-dire, mais vous savez, dans tous les pays en développement, c'est la même chose. Hein. Il y a effectivement un écart qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Parce que le développement, il n'est pas linéaire, quoi.
Marie-France Despalières, merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez accordé. Je rappelle que vous serez donc au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres le lundi 19 mars à 20h15.
Avec Charlie. Avec Sari,
avec
donc,
Sari.
Qui témoignera pour tous les autres.
Très bien. Et puis, si on veut le plus ample renseignement pour les parrainages ou si on veut eh bien, intégrer l'antenne eurélienne de votre association PSE pour un sourire d'enfant, on peut contacter M. Christian Clavier.
Absolument.
Christian.clavier@pse.ngo ou l'appeler au 06 17 01 31 77. Merci beaucoup.
D'ailleurs, Christian Clavier est d'ailleurs bénévolement notre webmaster.
C'est le webmaster donc de l'association. Voilà. Très bien, merci, merci beaucoup. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground. And I found out a long time ago what a woman can do to your soul. She can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground.